France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Histoire et géographie, deux disciplines qui avancent main dans la main ou coude à coude, c'est comme on veut. Parce qu'il n'y a pas d'un côté le livre d'histoire et de l'autre l'atlas. Les deux se combinent et voici que se déploie une farandole d'atlas. Atlas historique mondial, atlas historique de la France, de la Terre, du ciel, du Moyen-Orient. C'est ça aussi l'esprit d'aventure pour des explorations et des curiosités de l'histoire du monde. Déambulation géo-historique avec Christian Grataloup.
Le Népal, ça vous dit quelque chose ?
Ben, je regarde pas sous le nez des gens, voir s'ils ont le Népal, ou s'ils sont en bonne santé, ou s'ils sont pas en bonne santé, ou s'ils sont pas en bonne santé.
Avez-vous entendu parler de l'Annapurna ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une artiste de cinéma.
Le Mont Blanc, ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est un produit qui peut servir comme dessert. Mais, à mon avis, c'est... Ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est un peu épais.
La mer Caspienne, ça vous dit quelque chose ?
Ben c'est une mère qui casse les pieds à ses enfants, quoi.
Voilà, tout simplement dit. Ça vous fait rire, Christian Grataloup, c'est Gérard Pabiot, hein, les micro-trottoirs de Gérard Pabiot. C'est aussi ça, la géographie pendant longtemps, ce n'était que l'apprentissage par cœur des départements, des pays, des capitales.
Ah oui, ma grand-mère était capable de réciter toutes les sous-préfectures de France, oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas forcément inutile de savoir localiser le Népal ou l'Annapurna. Oui, effectivement, on peut pas limiter la géographie à cela, pas plus que l'histoire à une série chronologique qu'il faut aussi apprendre par cœur. Mais bon.
Voilà. Non, mais j'aime bien ce que vous dites là, parce que ce n'est pas exclure cet apprentissage-là. C'est très difficile de faire de la géographie sans avoir localiser, tout comme c'est impossible de faire de l'histoire sans savoir localiser les lieux dont nous parlons.
Ah, ça, je suis heureux de vous l'entendre dire, parce que parfois l'histoire est un peu hors sol. Hein. et donc, la localiser, savoir s'il fait chaud ou froid, si les gens ont besoin de s'habiller, si c'est pentu, si c'est fertile. Oui, bien sûr, ça, c'est tout à fait important hein, d'avoir rendu l'homme habitant, comme on avait dit au début du XXe siècle. Et Brodel l'a bien, je dis Brodel, puisque c'est le 40e anniversaire de sa mort et qu'on va pas mal le célébrer au mois de novembre.
Avec, dans cette évocation-là, l'association de l'histoire et de la géographie comme quelque chose d'ancien, en tout cas dans le cas français.
Dans le cas français, oui, c'est une chose d'ailleurs que la plupart des Français ignorent, c'est une spécificité française. Il y a très peu de pays, le Japon et puis bien sûr des pays qui ont été influencés directement par la France, mais dans l'ensemble, nos voisins, non, ce sont deux disciplines différentes. Et comme en France, les disciplines sont très indurées, alors que c'est plus souple ailleurs, effectivement, ça forme un couple qui est plutôt, je veux dire, il y a un machisme historien et une situation dominée géographique le plus souvent.
Voilà.
Mais... Et ça sert un peu de réservoir aux heures d'histoire qu'on n'a pas fini de faire. Mais non, l'histoire géo, c'est effectivement un classique et on y est habitué. Ça remonte au XVIIe siècle. Hein. C'est lié à la dimension territoriale de l'identité française.
J'ai du mal à comprendre comment ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Vous voyez, c'est bien que moi je suis marqué par notre école historique.
Nous sommes tous les deux d'anciens profs d'histoire géo et on sait que histoire géo, c'est un couple. C'est même plus qu'un couple, c'est fusionnel même. La géographie, souvent, est associée aux sciences de la nature. Donc, une géographie plus physique, quelquefois l'économie, donc une géographie, effectivement, qui est plus science humaine, mais assez finalement rarement à l'histoire. Tous les pays enseignent l'histoire. La géographie, c'est plutôt quelques cadres au début, puis c'est un peu tout. Hein. Ou alors, c'est une spécialité plus pointue.
Dès qu'il est question de géo-histoire, de quoi s'agit-il ?
Alors, si les termes histoire-géo est renversé, c'est d'abord, revenons à Brodel. c'est Fernand Brodel. Le mot apparaît dans sa voix, puisque on va republier les conférences qu'il a faites, dont les auditeurs avaient transcrit des notes quand il était prisonnier, hein, dans les OFLAG successifs où il a été. Donc, on fait ça aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Et c'est là qu'il apparaît le mot géo-histoire. De même, dans une lettre à Lucien Fèvre, quand il lui parle ses projets de ce qui était son directeur de thèse, dans ses projets de rédaction de thèse, qu'il a fait en tant que prisonnier et de mémoire.
Ouais, les études en 1942. Voilà.
Donc, à partir de cela, ce terme a été très important pour lui, correspond au premier volume de la Méditerranée, au temps long. La géographie, c'est un temps presque immobile, ce sont les vents qui alternent, ce sont les terres qui sont fertiles ou pentues, etc. Et ça, effectivement, c'est très très important. C'était pas tout à fait le premier. L'influence de Vidal de la Blache avait déjà été forte, entre autres sur Marc Bloch. Mais on a là quelque chose qui s'est pas mal développé et qui prend vraiment au mot la géographie dans l'histoire. Même si Braudel, par la suite, a abandonné le terme qu'il ne trouvait pas joli et est devenu d'ailleurs, sous l'influence de Wallerstein, plus économiciste.
Voilà, les statistiques, quoi. Mais vous l'avez récupéré, ce terme, d'ailleurs, à l'occasion du 40e anniversaire de la disparition de Fernand Braudel, la fondation Maison des sciences de l'homme, hein, que vous avez cité, Christian Grataloup, organise un colloque. On va mettre les références sur le site internet, le cours de l'histoire franceculture.fr. Bah oui, parce que l'intitulé de ce colloque et de ces manifestations, les mondes de Braudel, ce pluriel est important. Et justement, écoutons-le, Fernand Braudel.
Il y a trois chemins pour une science sociale objective. La localisation, la statistique, l'histoire. Soit l'espace, le nombre, le temps. Où, combien, quand? Retenons cette dernière question. Quand? En fait, il n'y a pas un temps uniforme d'une seule et régulière coulée, mais mille temps différents qui se mêlent entre eux et jouent les uns contre les autres, et dont l'écoulement multiple est la durée sociale ou l'histoire sociale dans sa plénitude. Le temps bref est celui de notre vie au jour le jour. C'est le temps dramatique de l'histoire traditionnelle. Nous sommes le 21 juillet 1858. Cavour, à Plombières, rencontre Napoléon III. Mais à quoi bon continuer le récit? L'histoire traditionnelle, c'est une série de journées, de temps courts, de temps individuels, mises abusivement bout à bout avec un peu d'imagination et quelques coups de pouce.
Fernand Braudel, dans l'émission Heure de culture française en 1959, avec cette pertinence hein, de dire qu'un événement, là, il prend la rencontre de Napoléon III et de Cavour le 21 juillet 1958. Une fois qu'on a dit ça, en réalité, on n'a rien dit. Et c'est la même chose en oubliant tout ce qui est géographique dans cette histoire-là.
Oui, parce que ce qu'il dit pour répondre à la question « quand », il pourrait tout autant le dire pour répondre à la question « où ». De multiples espaces s'entrelacent et se situent dans chaque situation. Et le problème, c'est que le « quand » et le « où », ce sont au fond la même question. C'est, il a pas poussé tout à fait au bout l'idée de la géohistoire, de ce point de vue-là. Alors, concrètement, ça peut effectivement se traduire, s'incarner dans des atlas historiques. Pour moi, l'atlas historique, ou en tout cas la cartographie historique, qui peut se traduire sous forme d'atlas, mais qui, dans l'avenir, reprendra sans doute d'autres formes, c'est quelque chose qui pose constamment des questions quand, où. Oui. Et par la carte, on peut montrer que, ben oui, il y avait peut-être des montagnes, ou il y avait peut-être la mer, et ce sont des éléments qui vont jouer un rôle.
Est-ce qu'il y a une histoire des atlas historiques? Est-ce qu'on arrive à identifier le premier objet qui peut être assimilé à un atlas historique?
Alors d'abord, le premier objet qu'on peut appeler atlas tout court, ça remonte au XVIe siècle. D'abord, on ne les appelait pas des atlas, hein, on les appelait des théâtres du monde. On les avait même appelés des Ptolémées, parce qu'on rééditait Ptolémée, puis on complétait, on mettait d'autres cartes. Alors, c'était au départ plutôt des Ptolémées, puis des théâtres du monde. Le grand, celui qui a le plus influent à la fin du XVIe, celui d'Abraham Ortelius, s'appelait Theatrum Orbis Terrarum, hein, toute la Terre. Donc, théâtre du monde, pour moi, ça me convenait parfaitement, parce que ça montre que c'est une mise en scène. Une carte est une mise en scène, c'est des choix, c'est pas du tout objectif. Il faut jamais l'oublier. Et puis le mot atlas est venu quand Mercator, l'ami et l'inventeur d'une projection célèbre, l'ami d'Ortelius, a lui-même fait un atlas sur lequel il a mis en couverture le géant atlas portant le globe céleste. Donc, depuis, on appelait ça un atlas. Et donc, là, on a des atlas qui étaient plutôt géographiques, comme on dit, c'est-à-dire synchroniques du temps présent. Mais déjà, il y a des atlas qui parlent du passé, entre autres, à cause des lieux saints. Donc les premiers atlas historiques sont des atlas d'histoire sainte, en gros, qui sont très largement imaginaires d'ailleurs, parce que quel était le périple de Moïse, même aujourd'hui, ça enlève beaucoup du fantasme, mais ce sont les premiers. Et puis à partir du XVIIe, on a vraiment les Gaules qui interviennent, et c'est là que naît d'ailleurs l'histoire géographie, c'est quand pour lire César, qui permettait d'apprendre le latin certes, mais aussi d'apprendre la nation, Ça, c'était l'idée. Donc, dans les collèges jésuites, oratoriens, ou par les précepteurs, évidemment, ça ne s'adressait pas au bon peuple, eh bien, on apprenait l'identité de la France, c'est-à-dire la Gaule. Mais pour ça, il fallait une carte. Ces cartes sont d'ailleurs assez fascinantes, parce qu'il y a toute la rive gauche du Rhin, c'est les Gaules de, la Gaule de ce qu'invente César, et puis il y a aussi la Gaule cisalpine, enfin la plaine du Pô. Donc, c'est très bon pour l'impérialiste, comme programme, si j'ose dire, géopolitique impérialiste français au XVIIe siècle. Hein, mais enfin, ce couple histoire-géo, carte et récit, c'est quelque chose qui, à partir de là, n'a jamais quitté les bancs de l'école.
Oui, et puis ça n'a jamais quitté non plus les ouvrages, parce qu'il est quand même important dans un ouvrage d'histoire d'avoir la carte associée, on en a besoin. Souvent, c'est oublié, c'est toujours difficile pour le lecteur.
Oui. Ouais, hélas, oui.
Et puis, la question qui se pose, parce que parler d'Atlas, c'est aussi parler de la difficulté de représenter le monde. Alors ça, Christian de Grataloup, vous avez tellement réfléchi sur cette question-là, vous évoquiez Mercator. Mais nous savons qu'il est si difficile de représenter le monde. Comment mettre à plat quelque chose qui n'est pas plat ?
À plat. Oui, le problème est de le représenter à plat, parce que de le représenter en trois dimensions sous forme d'une sphère, c'est pas vraiment compliqué. Mais vous avez représenté le monde, effectivement, pose un problème premier, qui est celui qui a un bord, alors que la surface de la Terre n'a pas de bord, comme toute sphère. De ce fait, on fait des choix, et à partir de là, il y a un centre et des bouts du monde. Les bouts du monde, comme des planisphères qui étaient dans les manuels scolaires à la fin du 19e siècle, en France et d'ailleurs dans d'autres pays européens, montraient que la France était au centre des terres émergées, à égale distance du Kamtchatka, de l'Alaska, de la Terre de Feu et de la Nouvelle-Zélande, le centre du monde, donc nécessairement le pays le plus extraordinaire, le plus formidable, le plus avancé en civilisation.
Nécessairement, direction Terrasson-la-Ville-Dieu, en Dordogne. Vous allez voir, là aussi, on cherche à représenter le monde.
À Terrasson, de plus en plus s'installe une industrie légère. Et aujourd'hui donc, nous nous rendons dans les usines d'une société spécialisée dans la fourniture de matériel d'enseignement et de pièces détachées industrielles. Implantée sur 10 000 mètres carrés dont 1500 couverts, elle emploie une vingtaine de personnes à la fabrication de cartes et de globes terrestres en relief, notamment réalisés en matière thermoplastique. C'est à la fabrication d'un de ces globes que nous assistons ici. La feuille de plastique est chauffée puis aspirée après chauffage de façon à prendre l'empreinte de son mou. Et ainsi, demi-sphère par demi-sphère, naissent les globes qui ont un diamètre de 72 cm. Les géographes de la société ont utilisé pour son dessin les relevés effectués au pôle Sud en 1957 par la mission de Paul-Émile Victor.
Nous étions en 1963 dans le journal télévisé Aquitaine sur cette fabrique de globes terrestres. Vous, Christian Grataloup, vous avez rêvé devant ces globes terrestres, parce que c'est vraiment associé souvent à l'enfance, ce globe que l'on regarde et qui nous fascine.
D'atlas que l'on feuillette, de pays sur lesquels on imagine que l'on pourrait voyager, au moins on voyage en rêve. Oui, bien sûr, comme tout le monde, je dirais. C'est bien sûr, j'ai beaucoup voyagé, rêvé, voire aménagé, peut-être parfois d'ailleurs conquis, enfin je ne sais pas, quand j'étais gamin, bien sûr. Mais effectivement, aujourd'hui, je crois que je suis toujours aussi jeune. Hein. Ça fait rêver toujours les cartes. Hein. Et je suis toujours un peu triste, même s'il m'arrive comme tout le monde de me servir de mon GPS, de voir que la contextualisation qu'offre une carte quand on manipule en dépliant, repliant avec mal une carte Michelin, on la perd. C'est un peu dommage. Mais les cartes murales scolaires, c'est quelque chose dont je suis nostalgique. Ça a quasiment disparu parce que les projections maintenant permettent de projeter les cartes. Et contre autres, celles de mes atlas, puisqu'elles sont en accès libre hein, sur Internet, sur le site de la revue L'Histoire. Les cartes murales, c'était quelque chose de formidable. Hein. Ces grandes cartes cartonnées. J'en ai d'ailleurs plein mon grenier.
C'est vrai.
oui, parce que elles ont toutes été à la poubelle dans les années 80.
Les cartes Vidal de la Blache.
Oui, et puis les générations successives, il y en a eu d'autres. Mais effectivement, c'était des objets tout à fait passionnants, parce que là, il fallait vraiment faire des choix. Et comme on dit, le choc des photos par rapport au poids des mots, quand on enseigne, j'ai toujours enseigné en mettant une carte en fond. Quand j'étais prof de collège, il y a 50 ans, j'avais une grande carte murale au mur, et je voyais bien de temps en temps que des regards se perdaient complètement et n'écoutaient plus vraiment ce que que je disais, que le poids des mots disparaissait, mais que le choc de la carte restait. Ça, c'est que je crois quelque chose d'important d'avoir cette vision.
C'est très juste. Nous l'avons tous vécu, le moment où l'esprit divague. On n'écoute plus ce que dit le professeur, mais on regarde ce qu'il y a au mur. Et quand c'est une carte, ça nous fait partir loin, l'esprit d'aventure. Bah tiens, je reprends le titre de votre ouvrage, Christian Grataloup, que vous publiez chez Armand Collin. Exploration au pluriel et curiosité du monde. Évidemment, il y a une carte sur la couverture. Vous ne pouviez pas faire autrement. Mais c'est cela aussi, cet esprit. Alors, l'esprit d'aventure, faut le définir parce que derrière tout cela, et vous l'avez dit, il y a une idée de conquête. La géographie, c'est aussi nommer l'espace, le maîtriser.
Oui, bien sûr. Ben c'est bien sûr aujourd'hui, c'est devenu heureusement quelque chose qui est évident. Le monde a été nommé par ceux qui l'ont parcouru et qui l'ont parcouru en dernier, ce sont les Européens à partir du XVIe siècle, enfin, du XVe. Oui, c'est donc un héritage toponymique, un héritage de découpage, parce que l'idée même de découper, de tracer des limites nettes, par exemple le trait de côte, de l'utiliser pour dire il y a des océans, il y a des côtes, c'est pas évident non plus. On pourrait penser les choses autrement. D'autres sociétés ont vu les choses autrement. Les Polynésiens, voyez pas, les cartes polynésiennes qui existent, hein, étaient absolument différentes des cartes européennes. Beaucoup moins territoriales, beaucoup plus méritoriales. On dit les méritoires maintenant pour les mers. Donc, vous avez une autre... Il faut justement reprendre notre imagination des visions du monde que l'on peut avoir. Ça, c'est tout à fait important. On est héritier d'un découpage totalement culturel qui s'appelle Europe, Afrique, Asie, Amérique, Océanie. Bon, faut faire avec. Sachant qu'aucune de ces limites n'est stable ni évidente, même la notion d'Océanie est plus qu'en voie d'évaporation, mais on a là quelque chose qu'il faut voir comme un moment culturel et qui doit évoluer, qui va évoluer, qui en même temps peut prendre des dimensions identitaires. Il m'est arrivé d'enseigner à Dakar et je sais que quand on dit l'Afrique, être africain, alors évidemment au sud du Sahara, ça a un sens très fort. C'est plus compliqué au nord du Sahara. Mais vous avez là quelque chose qui était pourtant une création européenne, un découpage du monde européen, mais qui est devenu quelque chose de profondément identitaire. Et donc la carte peut jouer un rôle géopolitique qu'il ne faut pas négliger. Et le cartographe a une responsabilité, d'autant plus que globalement la géographie qui apparaît neutre, hein, on dit bah oui c'est les conditions géographiques. Ben non, justement, ce sont des choix, des découpages culturels et souvent ils sont masqués.
Oui, c'est la situation complexe de ces découpages. Alors, culturel pour la géographie, mais ça vaut aussi pour l'histoire avec la chronologie. Nous avons ces grandes dates de référence, la fin de l'Antiquité, le début des temps modernes, etc. Nous savons que ces dates ne signifient pas grand-chose en soi, mais elles sont utiles pour comprendre le passé. Et pour la géographie, c'est ça. Vous avez raison, Christian Grataloup, ça ne veut pas dire grand-chose, ces découpages. On a quand même besoin de passer par là pour une compréhension du monde. Et après, il faut donner les outils pour nuancer cette compréhension du monde qui nous paraît évidente, mais qui ne l'est pas.
Oui, je me souviens du fils d'un conseiller du roi du Maroc qui me disait que son gamin, à qui il faisait visiter le Louvre, lui avait demandé « Mais papa, est-ce que nous aussi, nous avons le Moyen-Âge ?» Et pour le Maroc, c'était une excellente question, d'ailleurs, hein, tout à fait. Ça aurait été pour des Papous ou même des Japonais. Ben non, pas les Japonais, c'est plus compliqué, justement.
Ah bon,
Locke l'avait montré. Mais bah, parce que l'idée d'un Moyen-Âge japonais, d'une féodalité japonaise, ça a sens. On est dans une situation, et à la fin de la société féodale de Marc Bloch, il y a toute une analyse du Japon. Mais dans la plupart des autres sociétés, on plaque. Éventuellement, le plus souvent ça colle tellement peu que je ne sais pas ce qu'est le Moyen-Âge aztèque, hein, par exemple. Mais on a effectivement, et là, la géographie des périodes, c'est une question profondément géohistorique, parce que où Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne a-t-il sens ? En Europe, oui, c'est là où on l'a inventé, etc. C'est d'ailleurs presque tout à partir de date méditerranéenne, c'est tout à fait intéressant. C'est là qu'on invente l'écriture, c'est là qu'on fait la chute de l'Empire romain, enfin il y a la Chine, l'Empire romain, la chute de Constantinople, et on a les découpages. Mais ailleurs, évidemment, ça n'a pas de sens. Mais jusqu'où ? Parce que les liens qu'il y a entre l'histoire européenne médiévale et puis l'histoire des empires musulmans jusqu'en Iran, fait que la chronologie est en partie partagée. Donc la question marocaine du jeune gamin avait tout à fait sens. En Inde, c'est autre chose. Et puis plus on s'éloigne, soit en Chine, effectivement encore autre chose, sauf à retrouver des conditions qui peuvent, géohistoriquement, avoir des similitudes de bout de l'axe des échanges de l'Ancien Monde, comme le Japon.
C'est le défi, enfin ce sont les défis, je mets ça au pluriel, au moment de réaliser un atlas historique. Christian Grataloup, vous en avez publié plusieurs aux arènes, un atlas historique de la terre de la France et puis du monde hein, aussi, bien
ah
sûr.
Ah oui, c'est le vaisseau amiral celui-là.
C'est celui-là, voilà, exactement, mais quel succès, et en plus tellement mérité, parce que le plaisir que nous évoquions tout à l'heure à regarder des cartes murales pendant qu'on est élève dans la classe, c'est le même plaisir que nous avons à feuilleter un atlas, parce qu'on picore en même temps et on comprend les choses, mais quelle difficulté à réaliser cette chose-là. Et vous l'avez dit, hein, c'est en lien avec le magazine L'Histoire, le partenaire du cours de l'Histoire, qui a toujours eu un grand souci de mettre des cartes dans son magazine.
Oui, bien sûr, et ça, il faut rendre hommage à l'Histoire et à Valérie Hanin, sa directrice, entre autres, parce que la revue L'Histoire a toujours eu ce souci, parce que Valérie est prof d'histoire géo, comme nous, donc elle a toujours eu ce souci de cartographier les Ardennes. Et donc, c'est comme ça que dans les années, à la fin des années 2010, on a constaté une accumulation de cartes, 40 ans de cartes, qui pourrait être une base pour un terreau énorme pour faire un atlas historique. C'est comme ça qu'on s'est lancé avec les éditions des arènes dans l'atlas historique mondial. Et puis ça, ensuite, ça s'est décliné. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'était vrai au XVIe siècle, c'est toujours vrai aujourd'hui, au XVIe siècle et jusqu'au XIXe, les livres les plus chers qui soient fabriqués, ce sont des atlas. Les atlas sont des gravures, ce sont que des pages de gravures. Donc c'est extrêmement cher, ce sont des beaux livres par définition, comme on fabrique des livres d'art. Donc encore aujourd'hui, faire un atlas, c'est extrêmement coûteux. Donc il est beaucoup plus facile, même si informatiquement les choses se sont pas mal simplifiées. Faire un atlas très contemporain où on met une base statistique et un découpage géolocalisé, bon, l'informatique fait ça très bien. Quand il s'agit de cartes historiques où il faut tracer des limites floues nécessairement de l'Empire mongol, par exemple, et là, il faut effectivement un historien, un cartographe. C'est donc un travail d'équipe, coûteux, effectivement. Et ça ne peut marcher que s'il se vend bien. Les points morts, comme on dit dans l'édition, là où le livre est à peu près rentabilisé, il est très haut hein, dans les atlas. Donc oui, les atlas, ce sont des ouvrages qui nécessitent toute une collaboration. Ça, j'ai insisté, je ne fais vraiment pas l'atlas tout seul, ça c'est sûr. Il y a des cartographes, bien sûr, qui font un gros travail énorme et souvent on les embête. Leur demander, non, on rectifie, ou on ne sait pas. Sur une carte, ça c'est un point qu'il ne faut jamais oublier, une carte, le blanc se voit. C'est d'ailleurs un des grands avantages intellectuels de la carte. Parce que quand vous faites un récit, vous les historiens, vous pouvez toujours sauter un passage.
C'est vrai, tellement hein, vrai.
Zapper un peu, aller un peu plus vite. Tandis que sur une carte, si vous sautez un passage, ça fait un blanc. Voilà. Et ça se voit. Et c'est une information. Une information qu'on ne sait pas. Ça peut être aussi une erreur, mais globalement, c'est en général, on l'a ignoré. Donc, il y a des cartographes, mais il y a aussi tout un travail de documentation d'historiens. Et là, la revue L'Histoire est formidable parce qu'elle connaît tout le monde, hein, l'histoire française. Donc, on fait relire toujours aux meilleurs spécialistes. Ça, c'est une bonne garantie de notre travail. Le résultat est d'ailleurs que c'est très facile pour les éditeurs en langue étrangère parce qu'ils traduisent beaucoup nos atlas dans la mesure où c'est beaucoup moins coûteux que d'en fabriquer un autre, surtout que parfois on adapte au public local des cartes, s'il y a une demande.
Oui, et puis ça permet aussi de décliner, hein, on l'a dit, parce que l'Atlas historique mondial de la France, de la Terre, du Ciel, l'Atlas historique du Moyen-Orient, Christian Grataloup, que vous publiez avec Vincent Lemire, là aussi, c'est une réponse à travers l'histoire et la géographie aux questions extrêmement contemporaines. Ça permet de changer d'échelle, hein, de jouer sur des focus.
Tout à fait, sur les multiples temporalités qu'évoquait Braudel. Il y a un point essentiel, et à mon avis, c'est l'objectif numéro un de tous les atlas historiques, c'est que l'amnésie est un grand danger. On a toujours tendance à penser sur les quelques années, évidemment je prêche un convaincu, mais sur les quelques années qui se sont écoulées, faire remonter les problèmes de Gaza à 1947. En fait, le carrefour de Gaza, c'est quelque chose qui remonte bien avant l'Empire romain. Les armées d'Alexandre ont mené un siège de Gaza qui a été extrêmement difficile, comme la tire. Donc, c'est parce que c'était un relais Nivelles, plus qu'une oasis, enfin, qui était par ailleurs, jusque d'ailleurs une période très récente, l'endroit où on avait les meilleurs légumes, les meilleurs fruits, les meilleurs poissons pêchés. C'était vraiment une ressource que et l'Égypte et les empires de l'Asie se essayaient de s'arracher, et qui était justement au carrefour entre les deux. Voilà, donc c'est un lieu riche et douloureux. C'est le principe d'un carrefour et c'est globalement la logique du Moyen-Orient.
Puis un atlas, mais comme un livre d'histoire, vieillit, se périme, au sens où ben, l'avancée de la recherche fait que les informations mériteraient d'être corrigées, ou tout simplement, et on le sait tellement avec les atlas, les changements du monde. On a tous eu entre les mains des atlas des temps passés, on se dit, bah, tiens, ce pays n'existe plus, ou voilà, celui-là
oui,
est apparu.
Sûr. Bien sûr, il y a la géopolitique change, l'environnement change. Dans le prochain atlas qu'on va faire paraître au printemps prochain, qui est un atlas historique de la mer, on terminera par la mer avec 60 mètres de plus de hauteur. Et vous voyez que les configurations sont assez différentes. En Ukraine, par exemple, où on se battra plus du tout pour les mêmes choses, où toute l'Afrique du Nord, par exemple, il y a la scie, c'est assez spectaculaire. Ou alors la plaine du nord-est de la Chine qui disparaît. Donc, vous avez effectivement des atlas qu'il faut constamment actualiser. C'est le propre d'une logique historique. Les problématiques historiennes sont plus tout à fait les mêmes. Les héritages sont de découpage sont différents. Par exemple, dans l'atlas du Moyen-Orient, il y a une double page dont Vincent Lemire et moi nous sommes très heureux. C'est celle qui montre les trois grands empires musulmans, moghols, safévides et l'empire turc, donc ottoman. Donc, vous avez là un ensemble qui a une grande cohérence hein, sur ces trois éléments et qu'en Europe, on ne voit pas parce qu'on voit juste l'Empire ottoman, puis peut-être derrière, il y a des histoires de Perses, mais enfin bon, c'est lointain. Donc, au contraire, montrer bah, oui, que ça relativise nos positions et nos découpages. De même que les visions du monde que sont les planisphères, là, il a fallu constamment les adapter. J'ai toujours eu le souci, là, dans tous les atlas, et les cinq publiés et ceux à venir, de multiplier les types de projections. Ça me semble très très important, qu'il faut jamais voir le monde de la même manière. Quand j'avais des profs d'histoire géo en formation continue qui me disaient, mais au fond, quelle est la bonne carte du monde? Quelle projection il faut prendre? Je dis, mais il n'y en a pas de bonne, elles sont toutes fausses. Mais variez-les. Et là, je savais si quelqu'un était historien, parce que, et pas du tout géographe, la réponse qu'il me faisait était, mais ça va nous faire perdre du temps.
Ah, bah oui.
Et oui, parce que ce qui comptait, c'était pas le fond de carte, c'était les tonnes de blé ou la Seconde Guerre mondiale qu'on mettait sur la carte, et non pas le message, ce que j'aime bien appeler subliminal, que donnait la carte en montrant l'Europe au centre, par exemple, pour prendre l'exemple le plus classique, ou la Mercator qui sous-estime les zones intertropicales et surestime les régions froides.
Voilà, faut changer le sens des cartes.
Quand on regarde une carte de géographie, on ne s'étonne jamais que le Nord soit en haut. Et j'ai fait l'expérience tout à fait extraordinaire. On décalque une carte d'Europe sur un papier calque et on la regarde et on voit, on reconnaît tout de suite l'Europe, l'Angleterre, la France avec le bec de la Bretagne, l'Espagne, la botte italienne. Et on tourne la carte comme ça. Et ben on ne voit plus. On voit une espèce de Danemark. Et ça, faites l'expérience, faites le même avec une carte de France. Et ce qui vous semble le plus naturel va d'un seul coup vous devenir étranger. Et c'est ça que je cherche.
C'est Georges Perec qui s'exprimait ici dans l'émission Radioscopie en 1978. Ce jeu intellectuel est pertinent. On prend l'atlas à l'envers. Alors l'atlas, on peut le lire à l'envers de la fin au début, comme ça on remonte le temps. On peut le retourner pour changer notre vision du monde.
Oui, ben merci de mettre l'auteur d'Espèce d'espace. C'est Perec, un auteur extraordinaire, y compris pour la temporalité et la mémoire. Mais les cartes, effectivement, on les met d'ailleurs pas à l'envers. C'est le texte de la carte, la partie légendaire, comme on dit, hein, la legenda, qui est à l'envers. Mais la carte n'a pas ni envers ni endroit. Et d'ailleurs, je m'amuse toujours, parce que le plus souvent, les gens ne réalisent pas que orienter, ça veut dire normalement mettre à l'est, littéralement, et c'est mettre au nord, son aux cartes, hein, orientées au nord, ou avoir la bonne orientation. C'est un petit paradoxe qui remonte à la map monde médiévale qui, elle, mettait le paradis terrestre en haut, donc l'est.
Eh oui, alors, voilà, c'est cette richesse qu'on a en en vous lisant Christian Grataloup, et vous l'avez bien dit, tous ces atlas sont issus d'un travail d'équipe, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc déjà, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de bonne représentation du monde, ça n'existe pas, mais en les croisant, on arrive à avoir une vision différente. Et puis, dans cette démarche, il y a ce mot qu'on a utilisé en début d'émission, géo-histoire. Ça permet d'évoquer les disciplines, mais ici vous avez des géographes, des cartographes, des historiennes, des historiens. Toutes les disciplines avancent main dans la main.
Oui, je suis d'ailleurs assez... J'ai parlé du côté rigide tout à l'heure des disciplines scolaires françaises. Je suis pas très fan. J'aime bien quand on glisse d'un point de vue à un autre. Et ça m'a toujours frappé que l'on ait la biologie, la physique, mais pas... l'étude de la société, des sociétés, au singulier. Alors que ce que fait un sociologue, un économiste, un anthropologue, un historien ou un géographe, c'est quand même étudier le même objet, le social. Et qu'on le fait chacun avec notre propre métier. Ça, c'est vrai que le travail de l'archive, le travail du cartographe, le travail du statisticien ou de l'enquête qualitative, c'est des métiers. Mais inversement, c'est pas forcément une bonne chose que ce soit des disciplines à durée, entre autres par rapport à de jeunes enfants. Qui sont plongés dans des questions économiques ou des questions anthropologiques, parce que dès leur plus jeune âge, ils ont affaire à la famille et l'argent, par exemple. C'est un travail qui est nécessairement, on dirait, pluridisciplinaire, mais moi, j'aime pas trop le mot discipline, j'ai de fait évité, mais pas grave. On a cet élément, et prendre un point de vue pour faire un parcours historique d'économiste, c'est assez classique, où moi j'ai essayé de le faire d'un point de vue de géographe dans Géo-histoire, justement, le bouquin de 23, c'est quelque chose qui nous donne une vision tout à fait différente du processus historique global, parce qu'il faut constamment se poser la question où, et de se demander comment sont les sociétés, non seulement par rapport à leur environnement biologique et physique, de température ou de relief, que j'évoquais précédemment, mais surtout entre sociétés. Parce que j'aime bien dire, c'est pratiquement, je dois le dire au début du bouquin, je me souviens, on a pour partie toujours l'histoire de ses voisins. C'est vrai dans nos immeubles.
C'est vrai.
Mais c'est vrai aussi pour toute société. Toute société a des relations avec d'autres sociétés. Alors, elles sont plus ou moins fortes, plus ou moins ténues, et elles ont plus ou moins de voisins. Ces voisins sont plus ou moins importants, etc. Mais plus on a de voisins, plus les processus historiques sont dynamiques, complexes, parce que il y a des innovations, il y a des apparitions de virus, il y a des apparitions de religions, il y a des apparitions d'inventions techniques, il y a des augmentations démographiques chez les voisins qui est pas forcément dans la société d'à côté, et tout cela a des conséquences. Et donc, c'est réfléchir au voisinage, réfléchir aux continuités et aux discontinuités, c'est quelque chose qui change complètement. Et j'évoquais tout à l'heure le Japon et le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est historiquement un carrefour sur des millénaires. Un carrefour, c'est là où il y a le maximum de voisinage. Donc, il se passe le maximum d'innovation très tôt. C'est vrai que c'est là, pareil, les premières formes d'agriculture, les premières rencontres entre Sapiens et Néandertal, si on veut remonter plus loin. C'est là où apparaît également ensuite les premières cités, les premières écritures, les religions du livre. Mais le Japon, ça apparaît très tard. Il se passe des choses, l'écriture, la rivière, c'est 6e, 7e siècle de notre ère, c'est pas. Mais ensuite, c'est assez préservé. Aujourd'hui, où se développe un racisme virulent au Japon, parce que c'est une société très homogène, on est dans une histoire qui est tout à fait différente, l'archipel, évidemment, renforce les choses, mais on est... Même l'histoire de l'Ouest de l'Europe, ça n'apparaît en tant qu'Europe qu'au Moyen-Âge. Et c'est une histoire qui est beaucoup plus récente que ce qui se passe au carrefour du Moyen-Orient. Donc les localisations sont absolument essentielles. Et on ne comprend rien globalement à l'histoire des humains jusqu'au XVe siècle si on ne se dit pas que de la Méditerranée aux mers de Chine, on a... et d'ailleurs ça représente à peu près 75% de l'humanité il y a 2000 ans, comme aujourd'hui, on a des sociétés qui sont toutes connectées, qui sont toutes reliées les unes aux autres, qui sont toutes en interaction. C'est là où la peste noire, par exemple, va se saisir, celle de Justinien avant, mais c'est très net, on voit la carte de la peste noire, elle est dans les atlas, cette carte de la peste noire est une carte de cette taxe de circulation. Et en même temps, ailleurs, il y a d'autres sociétés qui ont d'autres aventures, qui ont d'autres expériences, qui sont très très différentes, qu'on oublie un peu, d'ailleurs, et qui pourrait d'ailleurs peut-être être tout à fait intéressante, non seulement intellectuellement pour voir des sociétés de manière anthropologique, mais également aujourd'hui comme expérience, hein, comme horizon d'expérience que l'on a derrière soi et qui nous permet de penser le rapport à la Terre, au globe terrestre par exemple, et aujourd'hui c'est peut-être pas une mauvaise question.
Ah, c'est une très bonne question géo-histoire, hein, c'est votre ouvrage, Christian Grataloup, publié aux Arènes, avec comme sous-titre « Une autre histoire des humains sur la Terre ». Et dans ce que vous évoquez là, la chronologie liée à la géographie mise en comparaison peut être utilisée comme argument, et ça l'a été longtemps, c'est-à-dire qu'au moment de la colonisation, on a comparé les chronologies en disant « regardez ce que nous avons fait » et « eux, regardez ce qu'ils ont fait ». En Asie, c'est la même chose, hein, et c'est vrai qu'en Chine, il est mis en avant le fait que la poudre, c'était bien longtemps, et que la comparaison de la chronologie des constructions en Chine et la comparaison de tout ce que nous avons en Europe montre des décalages. Cette utilisation de la comparaison entre les pays, de la chronologie, faut s'en méfier aussi. Il faut prendre ça avec des pincettes parce que ça sert d'argument aussi.
Bien sûr. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le modèle linéaire qu'on a appelé la modernité, un modèle évolutionniste simple, parce que, et ça c'est peut-être pas forcément le bon côté des choses, on ne croit plus au progrès, en tout cas dans les vieux pays occidentaux. Mais au XIXe siècle, où on était en pleine idée que le progrès, c'était nous, les occidentaux, les Européens en particulier, et on avait construit un monde géographique très simple. Il y avait le « nous », les Européens et les prolongements européens outre-mer, il y avait l'Orient, et puis il y avait tous les autres, le monde des anthropologues, en gros, hein, les sauvages, en d'autres termes. C'est ce que, d'ailleurs, Morgan, l'anthropologue Morgan, au 19e, avait appelé les civilisés, les barbares, les sauvages. C'était très simple. Et au fond, c'était une vision où tous les humains passaient par ces étapes. Nous-mêmes avons été des sauvages, paléolithiques, puis des barbares, dans l'Antiquité, puis... nous sommes devenus des civilisés, de plus en plus, bien sûr. Les autres, ils sont un peu en retard. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand on va vers le Moyen-Orient et la Chine, parce que, ils avaient commencé avant, justement. Alors, pour les Européens du 19e, on avait inventé une idée, ils s'étaient refroidis. Ils avaient commencé, ça avait chauffé, si on peut dire, plus que les ancêtres des Européens, si tant est que ce soit vraiment ceux-là qui étaient sur place. Ils s'étaient usés, fatigués, refroidis. Donc le monde islamique du 11e, 12e siècle était formidable. La Chine, la Chine des Ming, ça allait, c'était un grand très dynamique. Mais les Européens finalement avaient été plus vite finalement ils avaient pris l'avance. Donc on a inventé l'Orient. Cet Orient qui est l'Orient de l'orientalisme, qui va du Maroc, qui est très à l'ouest, hein, jusqu'au Japon. Et cet Orient, c'était des nous qui avaient été en avance, mais qui maintenant étaient en retard. Donc il fallait les civiliser, les coloniser. D'autres... Alors je ne parle pas évidemment de l'au-delà, les sauvages. Il n'y avait plus qu'à vraiment les éduquer complètement.
Ah oui, et puis avec... tous ces contacts, ces trajectoires, les routes de la soie. Et quand on évoquait tout cela, mais c'est vrai que en Chine, il est mis en avant le fait que la soie ait été utilisée, cultivée depuis très longtemps, bien avant l'Europe. Ça, c'est des éléments de géographie. Et puisque nous évoquons la soie, ça nous permet de faire un petit tour, non pas en Chine, hein, mais à Lyon.
Eh bien, monsieur Ducharne, je voudrais vous demander de nous parler des tissus et en particulier de la soierie, qui est aussi votre domaine.
Après la période de guerre et de libération, la production s'est nettement améliorée, tant en matière première, fil, et aussi matière colorante. Mais j'aimerais cependant dire quelques mots sur nos collections en général, et sur la fantaisie en particulier, car si l'uni est un problème purement technique, il n'en est pas de même de la fantaisie, car la fantaisie demande des recherches artistiques et poétiques. C'est un sujet que j'ai particulièrement à cœur, car la fantaisie, c'est elle qui a fait le prestige de la soierie lyonnaise.
Nous étions en 1949 à Lyon. Vous aviez moins 2 ans, Christian Grataloup.
C'est exact.
Voilà. Faut un peu de fantaisie pour créer des atlas historiques. Ça demande beaucoup d'imagination, d'ingéniosité.
Alors, d'abord, je veux d'abord vous remercier de m'avoir plongé dans mon enfance, parce que non seulement elle est lyonnaise, mais elle était dans la soierie. De ce fait, j'ai été élevé par une grand-mère couturière qui avait une entreprise de roulotage de carrés.
Le roulotage, pardon?
Le roulotage, oui, c'est les carrés de soie. Oui. Les bords étaient, ont fait un petit, comme un ourlet si vous voulez, mais épais, rond. On retourne le soie, on aime le bord et c'est très lisse, enfin c'est très doux. Ça se fait à la main, enfin ça se faisait à la main, ça peut être mécanisé, ça s'appelle du bourdon. Mais cette technique, effectivement, était vraie pour les plus grands carrés, pour ceux qui étaient vendus très très cher. Et ma grand-mère était dans la cascade de sous-traitance de la fabrique lyonnaise, l'avant-dernier échelon, qu'elle donnait du travail à des ouvrières à domicile. Donc j'ai vécu dans les rouleaux de soie quand j'étais gamin. Je disais c'est lourd, parce que c'est très lourd la soie. Voilà. Et j'aime beaucoup la métaphore du tissage d'ailleurs pour parler du tissage du monde. Les types de tissage qu'il peut y avoir, des liens entre les sociétés, du tissu qui se déchire. C'est quelque chose qui bien sûr est purement métaphorique, mais tout à fait, je trouve tout à fait efficace pour comprendre les liens intersociétés. Donc oui, pour l'impression qu'évoquait le soyeux qui était interviewé, effectivement il faut un peu de fantaisie, car les couleurs unies, les rayures, ce sont des choses relativement simples, même si les tenir dans les trames ou les chaînes et des tissages plus complexes, c'est pas toujours aussi évident. Mais les fabriquer, soit par l'impression, c'est facile, mais si on veut le faire à partir du fil, c'est tout autre chose, hein, dans le métier du canut. C'est là quelque chose qui est assez proche des problèmes graphiques que pose la cartographie. Ça, je suis bien d'accord. On a des questions visuelles et il y a un certain art. Je ne sais pas, je vois pas, même si on, à l'époque de Bertin, proche de Braudel, enfin, des gens qui travaillent que Braudel avait fait amener à la MSH, et on a beaucoup essayé de rationaliser la cartographie. C'était un moment important. Aujourd'hui, on s'en émancipe un peu et on redonne la dimension visuelle car c'est un art de communication. Les couleurs ne sont jamais neutres. Leur usage est purement culturel. Les contrastes sont nécessaires. À utiliser, on peut jouer là-dessus. Donc oui, je peux vous dire, c'était vrai hier, ça sera vrai encore la semaine prochaine. J'ai constamment des réunions où, avec des cartographes, on discute profondément de l'effet de la lecture que donne la carte. Oui, c'est un élément important.
Nous allons rester dans la métaphore professionnelle et familiale parce que, à côté de cet univers de la soie dans lequel vous avez grandi à Lyon, et on comprend bien, hein, tisser, etc., les cartes, les couleurs. Il y a un autre univers professionnel lié à votre enfance, mais cette fois-ci où le monde est découpé. Et peut-être découpé, oui, c'est vrai, à la feuille.
Oui, c'est vrai que le textile, c'était du côté maternel. Et mon père, mes grands-parents étaient des paysans venus à la ville, hein, et qui s'occupaient de bétail, enfin de bœufs en particulier. Mon père était boucher de formation. Dans toute mon enfance, chaque fois qu'on bougeait un peu, qu'on allait en vacances dans un petit village du Midi, il était furieux parce qu'il découpait mal la viande. Et c'est comme quelqu'un qui on dit la carte est pas dans le bon sens. Vous voyez, lui c'était la viande. Alors la coupe. Alors ça m'a, sur le moment, je pensais que mon papa avait tout. Toujours raison. En fait, il y avait une manière de couper lyonnaise, une manière de couper. C'est fini, ça a disparu. C'est comme les accents, ces choses-là ont disparu. Mais on a aujourd'hui des découpes quand même mondiales. Tout le monde connaît le T-bone steak, par exemple, qui est une manière de couper deux éléments de deux filets. C'est pas pour nous, c'est pour un boucher français. Maintenant, on sait ce que c'est, mais c'est une aberration. La manière japonaise de découper et les Chinois ont pas mal théorisé le boucher taoïste qui sait découper sans user son couteau. Parce qu'il connaît parfaitement la viande. Et ça, c'est une très belle métaphore géohistorique. Parce que si vous découpez la pièce de bœuf ou de oh, je suis désolé pour les véganes, si vous connaissez absolument pas la viande, vous massacrez. Alors, vous massacrez pour ensuite les usages culinaires qu'on va en faire. C'est dommage. Mais vous le massacrez aussi parce que vous allez abîmer votre matériel, laisser des os. Enfin, ça sera. Ça... Donc, il faut savoir. Pas exactement connaître la musculature, les lieux, les points précis. Et effectivement, si vous passez entre deux muscles, vous usez pas votre couteau.
C'est beau, hein, toutes ces métaphores, parce que il y a cela dans une déambulation historique avec vous, Christian Grataloup, aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est comprendre comment un individu qui grandit dans ces univers que vous venez de nous évoquer en arrive à s'intéresser à la géohistoire. C'est quoi le parcours, en fait? Vous êtes à Lyon, vous auriez pu devenir soyeux ou boucher. Mais c'est pas ça.
Oui. Mon grand-père maternel avait beaucoup regretté que ma mère abandonne ses études après le brevet et ne devienne pas ce que lui n'avait pas pu être parce qu'il avait fallu qu'il élève ses quatre frères et sœurs, devenir instituteur. Donc en fait, je sais bien que j'ai trois ou quatre générations derrière moi qui ont fabriqué de moi un hussard noir. ce que j'ai toujours été, que j'assume volontiers. Je me suis toujours défini comme enseignant, hein, quelque fonction que ce soit. Et donc, oui, voilà, ça fait de moi un bon élève à l'école. J'ai eu du pot, c'est une histoire de loyer de 48, enfin que mes parents n'avaient pas de sous, mais malgré tout, j'étais dans le quartier du lycée du Parc à Lyon. Donc, tout petit, j'ai connu les classes prépa. Enfin, bon, on m'a programmé, quoi. Et j'ai eu un problème. C'est que j'aimais pas choisir et que tout me passionnait. Donc, quitter des maths ou alors du grec, enfin, ça m'a beaucoup embêté. C'était vrai ensuite en tant qu'étudiant. J'ai bien sûr commencé par faire une licence d'histoire quand j'étais en prépa à Lyon, mais quand je suis devenu normalien à Cachan, je me suis inscrit en géo parce que j'étais passionné par le commentaire de cartes. C'est évidemment ça, le coup de foudre pour la carte est beaucoup plus ancien. Il remonte même à la classe de quatrième, précisément. Effectivement, ça m'a amené à faire de la géo, donc je suis agrégé de géo. Et puis,
on peut rappeler juste cet exercice du commentaire de cartes, parce que ce n'est pas une évidence pour le commun des mortels.
Oui, ça a surtout été une brimade pour les historiens. Oui. Ça, je crois que tous les historiens qui écoutent peuvent avoir beaucoup son... Je me souviens de Jacques Le Goff, qui m'avait dit « Ah, vous les géographes, oui, c'est terrible. Qu'est-ce que vous avez pu nous... » Alors, je ne vais pas prononcer au micro le mot qui l'a même nous embêté. Avec le commentaire de cartes, entre autres la coupe. Il s'agissait de pinailler. Oui, je suis parfaitement d'accord. On peut dire des choses passionnantes quand on se met à raconter. Ben, regardez, la ville, elle est là, il y a la pente, il y a le cours d'eau, là c'est marécageux. Tout d'un coup, les choses s'éclairent. Mais si vous essayez de faire couper un papier millimétré et puis ensuite de mettre des couches géologiques, ça me passionnait. Mais effectivement, je comprends très très bien que ça soit un truc technique dont l'usage ensuite pour les sociétés est quand même modeste qui a bien embêté et qui était vraiment un exercice rituel qui permettait du classement, de la distinction assez facilement.
Synclinal, anticlinal, modécarstique,
voilà. C'est pas inutile.
Ah, mais c'est génial pour lire les paysages.
C'est pas inutile du tout. Mais effectivement, c'est pas non plus ce qu'il y a à connaître en premier. D'abord, c'est qu'il y a de la pente ou pas, qu'il fasse chaud ou froid, que ce soit le sol, oui, ça c'est utile. Mais ensuite, on peut aller plus loin et voir les causes de ce phénomène. Mais c'est le plus souvent, pour quelqu'un qui est d'abord historien, c'est pas ça l'essentiel. Et je suis pas mécontent d'avoir contribué à un peu limiter le rôle du commentaire de cartes aux agrégations, je peux me dire. Pas du commentaire de cartes en soi.
En soi, cartes, oui, je comprends bien.
Il faut voir des cartes, on doit travailler sur des cartes. Mais le rituel précis qui avait été codifié dans les années 30 par de Marton, bon, ça, non.
Oui, voilà. La coupe géologique, tout ça... On s'en souvient, mais avec ici ce regard porté sur la géographie, à un moment où nous sommes dans les années 1970, la géographie réfléchit beaucoup à elle-même. Nous sommes dans des périodes où toutes les lignes bougent. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, les disciplines, l'interdisciplinarité, qui ne veut pas dire grand-chose, je l'entends bien. C'est-à-dire que tout le monde avance main dans la main pour les sciences sociales.
Oh, les mains dans la main, je ne oui. Rêvons pas.
Mais... Ou ailleurs.
Mais, oui, d'ailleurs, après ma licence, puis la grecque de géo, j'ai fait une licence et des études d'anthropologie. Hein. J'ai suivi travailler avec Godelier. Mais oui, j'avais du mal à choisir. C'était un élément important et souvent vos collègues journalistes me demandent pourquoi j'ai pas été historien et j'ai pas été prof d'histoire à l'université mais prof de géo. Je réponds toujours que la géographie m'a permis de faire l'histoire que je voulais. C'est-à-dire que m'affranchir des périodes, m'affranchir des découpages et de prendre le monde pour objet. Mon terrain, pour moi, c'est le monde. Souvent on me dit okay, quelle est votre période, quel est votre terrain. Je dis ben oui, c'est le monde du début à la fin.
Tout simplement. Voilà. Historien, géographe et puis anthropologue, hein, vous venez de citer Maurice Godelier, ben voilà, il y aurait eu ce cheminement-là possible, mais c'est un peu la même chose, c'est par la géographie que vous êtes anthropologue, où il y a la démarche de l'anthropologue.
Tout à fait, oui, il y a de la démographie aussi, hein, parce que je tiens beaucoup, c'est dans Géohistoire, c'est dans aussi la classe de la Terre, à mettre régulièrement des frises pour dire combien on est. Quand on parle du début du néolithique, on va parler de 6 millions de personnes sur Terre, enfin 10 millions de personnes. Si on est au début de notre ère, on est à 250 millions, 500 millions au 15e siècle. C'est pas du tout la même chose. Alors souvent, on le dit, on le cite, et puis on l'oublie. De même, on oublie un truc extrêmement essentiel, quel est l'âge moyen, médian, enfin quel est l'âge d'une population? Les gens sont-ils vieux ou sont-ils jeunes? Aujourd'hui, le Japon est le pays le plus vieux, est un pays dont la population diminue, la Chine, l'Europe prend le même chemin. Voilà des éléments, des contextes absolument essentiels. Et si vous pensez au contraire, à quel moment un pays est très jeune? À quel moment la population française a été la plus jeune de son histoire? En 1789. Voilà, c'était le moment où vraiment les gens... Parce que la transition démographique avait commencé, il y avait beaucoup de jeunes, pas beaucoup de vieux, la population était très jeune, ça a fourni des troupes à la Révolution et à l'Empire, ça joue un rôle géopolitique, qui a créé une saignée qui, à son tour, a inversé le processus. Mais par exemple, je ne sais pas, je me souviens d'un spécialiste de l'Iran qui avait fait une courbe de population sur l'âge, et la population était particulièrement jeune à la fin des années 70,
oui, oui.
1970. Oui. Donc la Révolution iranienne, à ce moment-là, c'est inversement un pays très vieux, c'est pas un pays révolutionnaire. Hein.
L'importance de croiser ces disciplines, l'histoire, la géographie, bien sûr. Mais on revient toujours au même, interdisciplinarité.
Parmi les nombreux statuts des professeurs, un tout particulier, celui des PEGC. En décodé, les professeurs d'enseignement général des collèges. Un même métier, mais des itinéraires souvent très différents. Comme tous les PEGC, Madame Toubeau enseigne deux matières à la fois, le français et l'éducation physique. Une association étonnante, mais qu'elle défend et qu'elle a choisie.
Quand on a les mêmes élèves et le rôle du PEGC, le but du PEGC, cette bivalence et non pas cette bispécialisation comme ça a été souvent fait parce que très mal compris dans sa finalité, lorsqu'on exerce, on peut exercer la bivalence, les mêmes élèves dans deux matières aussi différentes que l'EPS et le français, on a un contact tout à fait différent et c'est vraiment très agréable et très profitable.
EPS et français, bah oui, nous étions en 1986 dans le journal télévisé Limousin. Vous, Christian Grattalo, vous avez dirigé un centre régional pour ces... Alors, c'est vrai que PEGC, c'est professeur d'enseignement général de collège.
Oui, alors c'est un statut qui était lié à l'histoire de l'enseignement français, ce que Antoine Pro a bien montré, et entre autres le rapport entre l'enseignement centré sur l'école élémentaire et l'enseignement centré sur le secondaire. Je suis rentré au lycée, moi en sixième. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des gens qui étaient dans l'établissement depuis la 11e.
Ah oui.
Oui, il y avait des petites classes, il y avait pas de collège, on rentrait à ce moment-là. C'était sélectif d'ailleurs. Donc quand on a intégré les écoles primaires, elles allaient plus loin. Il y avait les fins d'études, comme on disait. Aujourd'hui encore, on s'étonne pas qu'il y ait cours moyen. Mais moyen, qu'est-ce qu'il y a après? Il y avait cours supérieurs. C'est-à-dire des qui s'amenaient au certificat d'études jusqu'à 13-14 ans. Ça a disparu, ça a été fondu dans les CEG, dans les années 50. Quand on a commencé à couper au lycée, on a créé des CES, des collèges d'enseignement. Et puis c'est devenu, avec René Abbey, le collège général, le collège unique. Mais il restait le corps des instituteurs qui enseignaient d'abord dans les classes supérieures, puis dans les CEG, qui sont devenus des PEGC. On a continué à recruter, et j'ai été alors soit par formation continue pour moitié, soit par des étudiants qui rentraient, qui passaient un concours. Donc j'ai contribué à leur formation, et j'en ai un excellent souvenir, parce que c'était un statut formidable. J'avais été moi-même pendant 5 ans prof de collège, et j'avais vu que les classes de 6e qui étaient les mieux pour faire la transition, c'était des classes où il y avait fondamentalement 2 enseignants. On passait de 1 à 2, et pas de 1 à 11. Qui était le nombre de profs de discipline qu'on avait dans un collège. Donc, 2, c'était un qui faisait le français, l'histoire géo, éventuellement une langue, et puis l'autre qui faisait les maths, la physique, la biologie. Bon, on peut discuter cette question, lettres-sciences, mais malgré ça marchait comme ça. Donc, c'était quelque chose qui, pédagogiquement, prenait en charge des gamins, évitait ce choc du passage au secondaire, et le triomphe définitif du tout-puissant empire du milieu, c'est une phrase de Lucien Febvre que reprenait Antoine Pro, pour le secondaire, ça a été l'élimination définitive des PEGC, à qui on a fait porter tous les maux des difficultés du collège unique, qui brassait effectivement des populations différentes, ce qui était totalement injuste, à mon avis. On a perdu un outil formidable pour adapter justement les élèves. Bon,
On y reviendra peut-être un jour, mais c'est dommage.
Oui, et puis c'est toute cette question de la transmission. Alors là, on l'évoque pour les élèves, mais ça vaut à tout âge, la transmission, le plaisir d'apprendre. Et c'est aussi ça, ces atlas historiques. Il y a un aspect très ludique par la carte, par le regard, par la compréhension, presque subliminale par l'utilisation des couleurs. Le succès de vos atlas, Christian Grataloup, s'explique également par ça. C'est le plaisir de feuilleter ces atlas et le plaisir de comprendre de manière simple les choses.
Il ne faut pas oublier que l'écriture est une écriture textuelle, ce qu'on appelle les langues écrites, mais c'est aussi une écriture spatiale. De ce point de vue-là, je suis très critique sur quand on parle de la naissance de l'écriture ou des peuples sans écriture. Parce que on va dire par exemple que les Polynésiens étaient des peuples sans écriture. Ben oui, mais ils faisaient des cartes extrêmement sophistiquées. N'est-ce pas une écriture ? Donc, y a des choses qui rendent la question plus complexe. Car l'écriture spatiale a des contraintes bidimensionnelles, quand elle est à plat. Alors, évidemment, quand on aura des hologrammes, c'est autre chose. Mais au moins bidimensionnelles, que n'a pas le texte. Inversement, elle a des contraintes que n'a pas le texte. Le texte, on peut tourner la page, ou ouvrir un rouleau et continuer le texte. C'est du continu linéaire. Tandis que la carte, c'est du bidimensionnel. Donc, à partir de là, on peut faire dialoguer les deux. Moi, j'aime beaucoup, d'ailleurs, on le fait de plus en plus dans les atlas, incruster du texte dans la carte.
Oui, je vois très bien. Hein. Enfin, il suffit de feuilleter vos atlas. On voit l'inventivité qui s'impose à vous pour pouvoir passer toutes ces informations. D'où le plaisir de tous ces atlas. On en a cité, mais il y a Géohistoire, Christian Grataloup, où vous expliquez toute cette démarche-là. Et pour les derniers, l'atlas historique du Moyen-Orient avec Vincent Lemire, ô combien nécessaire aujourd'hui. Et puis l'esprit d'aventure, hein, exploration et curiosité de l'histoire du monde. Je disais, le côté plaisir aussi passe par là. Et puis vous avez préfacé comment l'Europe a nommé le monde. Et ça, vous voyez, tant de pertinence. On vous écouterait des heures, Christian Grataloup.
Merci.
Mais merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire, le cours de géohistoire.
Donc. Voilà, le cours de la géohistoire.
Merci beaucoup.
Xavier Mounet.
Merci beaucoup.
Leçon de géographie, au nord soleil de minuit, au sud soleil de midi, à l'est des nuages gris, à l'ouest chantons sous la pluie. Et pour la superficie, du rêve dans un parapluie.
Et voici le fil histoire maintenant dans le cours de l'histoire, cette chronique que vous retrouvez chaque semaine, ou en vous emballant avec le fil Culture G, sont des décryptages économie, science, philosophie, à retrouver d'ailleurs en vidéo aussi sur les réseaux sociaux de Radio France. Pour le fil histoire, c'est Emanuele Arioli, historien, spécialiste de la littérature médiévale, avec cette question, peut-on rire de tout ? Écoutez bien, un moment rare, Emanuele, qui joue Alain Batté.
Aujourd'hui, l'humour monte sur scène ou sur le banc des accusés. Alors, peut-on rire de tout ? Le Moyen-Âge aurait dit oui, mais pas n'importe quand. Il y avait des jours pour ça. Le carnaval et surtout la fête des fous. En latin, festa stultorum. Elle tombait entre Noël et l'Épiphanie, souvent autour du 28 décembre, le jour des Saints Innocents. Et ce jour-là, tout était permis. Vous auriez vu des gens jouer au dé dans l'église, manger sur l'autel, chanter des chants obscènes, se jeter des pots de chambre ou pire. L'enfant devenait roi, le fou montait sur le trône, on élisait des papes, des évêques, des rois pour rire. C'était une fête déguisée qui célébrait le monde à l'envers, y compris dans les hiérarchies sociales et dans les rituels religieux. Les prières devenaient des chansons à boire, on célébrait la messe des ivrognes et la messe des joueurs, on récitait le sermon du jambon, on déclamait l'évangile selon un étudiant de Paris. Blasphème ? Injure ? Pas vraiment. Parodier le sacré était plus ou moins accepté à l'occasion des fêtes, et les auteurs de ces parodies débridées pouvaient être de fervents croyants. Le sacré et le grotesque coexistaient, deux faces d'une même médaille. Et l'Église, dans tout ça, elle tente d'interdire ces fêtes, en vain, car elles étaient très ancrées dans le peuple, avec des racines qui plongent, peut-être même jusqu'au Saturnal, ces anciennes fêtes romaines à l'honneur du dieu Saturne. Difficile de les éradiquer. Alors l'Église tente au moins d'encadrer le rire, de le ritualiser. À Pâques, le prêtre faisait des blagues depuis sa chaire pour faire rire les fidèles après le carême. Ou encore, pour la fête de l'âne, il entonnait des chants à l'honneur de l'âne qui transporta Marie et l'enfant Jésus dans la fuite en Égypte. Et à la fin de la messe, au lieu de dire « Amen », il braillait trois fois avec la foule « I-un, i-un, i-un ». Mais à la Renaissance, l'Église veut remettre de l'ordre avec la contre-réforme. La parodie de la religion est jugée irrespectueuse, blasphématoire. Et l'Église parvient enfin, au XVIe siècle, à interdire ces fêtes. On ne peut plus rire du sacré. Alors, ces prêtres humoristes, subversion ou simple ânerie, surtout un mécanisme de contrôle. On laissait rire le peuple un jour pour qu'il se taise les autres. Une soupape, une mise en scène de l'ordre renversé, une pose illusoire du système officiel. Juste de quoi canaliser la rébellion, un rire ritualisé pour mieux rétablir l'ordre ensuite. Car quand l'humour redescendait de son trône, tout reprenait comme avant. Et aujourd'hui ? À vous de répondre. Ce qui est certain, c'est que sans fête de fou, il vaut mieux éviter de rire sur certains sujets, à moins d'avoir un bon avocat. Sinon, faites des vannes médiévales, c'est sans risque. Les morts ne vous traîneront pas au tribunal, les licornes non plus.
Merci Emmanuel Arioli. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet à la technique Noé Chaban, émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Maïwenn Guizhou. À retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.